بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله mes chers frères, ce soir nous avons complété le sixième juz. Nous avons terminé la sourate Al-Ma'ida, et donc enfin, presque terminé. Et demain, Inch'Allah, on va commencer la sourate Al-An'am. Et dans la lecture d'un de nos imams aujourd'hui, on a vu le verset qu'on avait abordé il y a quelques jours concernant la proximité qu'il y a entre les Nasara, les chrétiens et les musulmans. C'est le verset qui a été lu par notre jeune frère. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا Inna Nasara, verset qu'on avait plus ou moins expliqué la dernière fois. Mais là, comme on l'a lu ce soir, on voit le sabab et nuzul, les circonstances de révélation. Selon Ibn Kathir, rahimahullah, ce verset a été révélé alors que le négus, on l'appelle en arabe An-Najashi, le négus, on connaît l'histoire du négus, hein, c'est lui qui avait accueilli les musulmans lors de la première hijra, première émigration en Abyssinie, l'Abyssinie qui est l'équivalent de l'Éthiopie à notre époque. Donc, à un moment donné, le négus a envoyé une délégation composée, selon certaines sources, de 12 personnes, selon d'autres sources, d'une cinquantaine de personnes. Donc, une délégation d'Abyssinie, d'Éthiopie, donc des chrétiens, ont été à Madina Munawwara rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et essayer de voir, essayer de comprendre quel était le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont écouté les versets du Coran, lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, ils ont entendu la révélation, ils ont immédiatement accepté la religion d'Allah, ils ont lu la shahada, d'où le verset qui a été lu ensuite par notre frère Usama, wa idha sami'u ma unzila ila rasul tara, lorsqu'ils ont entendu ma unzila ila rasul, ce qui a été révélé sur le prophète, tara a'yunahum, on voit leurs yeux tafidu min ad-dam'i, hein, les yeux ruisselés de larmes, mimma araftu min al-haqq, parce qu'ils ont reconnu la vérité. C'était des gens qui avaient la foi en Allah. Certes, il y a eu des falsifications dans leurs livres, mais Allah Ta'ala dit bien que ce sont les personnes qui sont le plus à même à s'approcher, à se rapprocher de l'islam, à se rapprocher de nos croyances. Donc, ces personnes-là, ils ont entendu les paroles d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala et immédiatement, c'est comme si ça a fait un déclic, on pourrait dire, dans leur cœur, et ils ont vu que ça, c'est la vérité. Et il y avait un hadith, je ne sais pas si on va le retrouver, dit que tellement ils pleuraient que la barbe de ces personnes-là a été remplie de larmes, tellement ils pleuraient. Et petite indication, ça nous montre aussi que les premiers chrétiens gardaient la barbe. Les premiers chrétiens, ils imitaient la sunna, la vraie sunna de tous les prophètes, alayhimu salatu wassalam, la sunna même de Hazrat Isa alayhissalam, de Jésus-Christ donc. Vous savez, quand il représente Jésus-Christ, c'est toujours avec une barbe. Donc, si un jour quelqu'un dit arabe, il faut garder la barbe. Je fais Ben Laden, vous dites, quoi, les chrétiens, ben, comment il est représenté Jésus-Christ? Toujours représenté avec une barbe. Et ça, c'est la sunna de tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier prophète, ils gardaient la barbe. Donc, ces chrétiens d'Abyssinie gardaient la barbe et leur barbe était remplie de larmes tellement ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu la vérité lorsque les versets était descendu sur le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala décrit ces personnes, un verset, subhanallah, c'est souvent quand on cherche qu'on ne trouve pas. Allah Ta'ala décrit ces personnes que dhalika bi'anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Allah Ta'ala décrit pourquoi ces gens-là sont les plus proches des musulmans, parce que parmi eux il y a, subhanallah, il y a des moines, il y a des prêtres, et qu'ils ne sont pas enflés d'orgueil. Et ça, c'est la qualité essentielle qu'Allah Ta'ala a décrit chez ces gens, que c'est des personnes qui écoutent et qui sont prêts à entendre la vérité. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui sont même pas prêts à vous écouter. D'accord? Il y en a ceux qui écoutent, mais qui ne veulent rien comprendre. Tandis que eux, à l'époque du Prophète sallam, ils ont écouté et ils étaient à la recherche de la vérité. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme accepte les propos d'une autre personne? C'est à partir du moment où son cœur n'est pas rempli d'orgueil, de fierté. Quand il est prêt à écouter vos arguments, à écouter votre discours, ça veut dire qu'il n'a pas d'orgueil dans son cœur. Et c'est parce que là, le kabiyyanna minhum qissi sina warubana, et la raison entre autres, c'est wa annahum la yastakbirun, ces gens-là, hein, ils ne sont pas remplis d'orgueil. Ce qui fait qu'ils ont, comme on a dit tout à l'heure, écouté les paroles révélées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont lu la shahada. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il continue, il y a un hadith qui dit que falamma qara'a, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le Coran, amanu, ils ont eu la foi, wa fadat a'yunahum, et se sont mis à pleurer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la'allakum, idha raja'atum ila ardikum, hein, certainement, maintenant vous allez retourner dans votre pays, vous allez peut-être retourner vers votre religion. Il a dit, لن ننتقل عن ديننا, jamais. Maintenant qu'on a trouvé la vérité, jamais on va retourner vers notre ancienne religion. Et selon Ibn Kathir, c'est à ce moment-là qu'Allah Ta'ala a révélé le verset, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. Ça c'est important, surtout les débuts de Sipara, qu'en général, même si on n'est pas hafiz le Coran, mais on connaît comment commence ces débuts de Sipara. On connaît pour tous les juz, les deux premières lignes. Mais c'est déjà bien, quand on va un jour lire ou entendre Waïda Samiru, on va se rappeler de ce qu'on avait dit, que ah tiens, ce verset-là a été révélé parce qu'il y avait des chrétiens d'Abyssinie qui ont été voir le prophète sallam, qui ont écouté la révélation, qui ont écouté les versets du prophète sallam, ils ont reconnu le message de vérité et ils ont lu la shahada et un verset descendu, hein, pour honorer ces personnes et honorer l'honnêteté et la pureté de leur cœur. Et Ibn Kathir, rahimahullah, dans un autre commentaire, elle dit aussi que, voilà, elle dit que la qualité principale de ces gens-là, c'est que dans leur religion, ils sont remplis d'honnêteté et d'amour. Elle dit que parmi les textes, ça c'est Ibn Kathir qui dit, hein, parmi les textes qu'il y a dans la Bible, hein, la fameuse phrase, Man darabaka ala khaddika al-ayman, fa'adir lahu khaddaka al-aysar. En français, hein, si quelqu'un te donne une claque sur la joue droite, hein, il faut tendre la joue gauche. C'est-à-dire qu'il enseigne à ces personnes de ne pas répondre par la violence. D'accord ? Il dit que par rapport à cet excès, on va pas dire cet excès, vous êtes présent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de muhabba et de fait qu'il y a de leur dîn, de leur religion, de leur croyance qui vient d'Allah à la base. Leur croyance vient d'Allah. C'est le message qu'Allah a révélé à Isa a.s. Mais malheureusement, à cause de la malhonnêteté de certaines personnes, hein, après trois siècles, après hier, je vais dire, après le décès de Isa a.s., je me rattrape, après le retour de Isa a.s. vers le ciel, trois siècles après, il y a eu modification, falsification, depuis les bases de la croyance, jusqu'à la base des actions, jusqu'à ce qu'ils ont perdu le Ramadan aussi. J'avais dit que le Ramadan a été accordé aux Yahoud et aux Nasara, mais à force de falsifier, de jouer, de décaler, et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, explique à un moment donné, les rois ont décidé qu'il faut reporter le Ramadan en hiver. Parce que, avec le changement des saisons, hein, le Ramadan, une fois était en été, ils ont trouvé qu'il faisait trop chaud, et ils l'ont décalé en hiver. Et à force de falsifier, de jouer avec la religion d'Allah, à un moment donné, ils ont perdu la religion. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que pour nous, Allah Ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun ». Allah Ta'ala fait la promesse que ce dhikra, cette révélation, c'est nous qui en sommes les gardiens. Allah le protège, ce Coran. Personne ne pourra jamais, de jamais, de jamais, le modifier, le falsifier. Regardez vous-même, analysez combien de personnes, combien de pays, combien de nations, combien de mouvements politiques aimeraient en finir avec l'islam. Et parfois, ils le disent très clairement, de manière très crue, mais vous savez, la seule religion qu'on a le droit de cracher, de vomir dessus, d'humilier, d'essuyer ses pieds dessus, c'est l'islam. Et le crime n'est jamais reconnu. Pour n'importe quelle tendance, si on insulte, on manque de respect, on va faire appel aux droits de l'homme, etc., etc. Mais pour l'islam, malheureusement, hein, les choses en sont ainsi que l'islam, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et si quelqu'un veut défendre la position de l'islam, veut dire qu'il y a des choses qui nous sont sacrées. On ne parle pas sur notre prophète, on ne parle pas sur nos piliers, sur nos valeurs. Et là, on va dire que ça, c'est la liberté d'expression. Tandis que s'il y a des propos qui sont dits sur d'autres religions, on a tous compris, là on va dire que oui, atteinte aux droits de l'homme, atteinte à la dignité humaine, etc., etc., vous choquez des milliers de personnes qui ont des sensibilités religieuses. Nous sommes tous conscients qu'il y a un total déséquilibre par rapport à la haqq, la religion de la vérité, et les autres religions et les autres mouvements. Mais, comme on a dit, même s'il y a plein de gens, plein de nations, plein d'idéologies qui aimeraient en finir avec l'islam, il y aurait une solution. Ils savent que notre source à nous, c'est le Coran. Qu'est-ce qui fait la force du musulman? C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous puisons notre foi, nos actions, nos valeurs du Coran. Alors, imaginez que des pays très puissants, très riches, ils auraient décidé de faire imprimer des millions, voire des milliards d'exemplaires de faux Coran et répandre dans le monde entier. Et principalement aller dans les pays pauvres, Les pays africains où les gens ils ont peu de moyens, et retirer tous les vrais Qur'an et mettre des faux Qur'an avec des faux versets. Dites-moi, est-ce que financièrement ces pays ne peuvent pas le faire? Bien sûr que oui, ils peuvent le faire. Une bombe atomique, deux bombes atomiques, ça coûterait plus cher qu'imprimer 1 milliard de Qur'an certainement. Mais ils ne peuvent pas. Et jusqu'à la fin du monde, cette action n'est pas prédestinée. Dans le taqdir de l'humanité, il n'y a pas ce genre d'événement. Allah a décidé que ce genre d'événement ne peut pas se produire. On peut avoir un homme qui s'appelle Dajjal, qui dit « Je suis Dieu », qui va ressusciter le père, la mère d'une personne qui est décédée, pour que lui, il atteste que cet homme est Dieu. Oui, Allah Ta'ala a prédestiné qu'il y aura tel événement qui aura pour but d'éprouver les gens, d'éprouver ceux qui ont la foi de leur cœur. Mais jouer avec le Coran, c'est même pas prédestiné. Même s'il y a peut-être eu des initiatives individuelles, personnelles, mais ça s'est arrêté à là immédiatement. Personne ne peut falsifier ni modifier ne serait-ce qu'une lettre du Coran. Il y avait une fois, un professeur nous racontait que dans un pays d'Afrique, je ne sais pas si c'était le Zanzibar ou là, un pays d'Afrique, il y avait un Z dedans, Zanzibar ou Tanzanie ou Zimbabwe, il y en a trois, d'accord? Zambie, bon ça va, hein? Et donc, on connaît la FES. Et donc, il dit que dans un de ces pays, ils avaient imprimé le Coran et ils ne voulaient pas falsifier. C'est des musulmans, des Ahlis Sunna. Ils voulaient juste rajouter quelque chose. Dans le verset Muhammadur Rasulullah, voilà, exactement. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils ont écrit Muhammadur Rasulullah, au lieu d'écrire Walladina ma'ahu wa shidda'u ala al-kuffari ruhama'u baynahum, ils ont rajouté Sallallahu alayhi wa sallam. Nous, quand on entend le nom de Muhammad, on dit instinctivement Sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on lit le Coran, quand quelqu'un dit Muhammadur Rasulullah, il ne dit pas Sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça ne fait pas partie du wahi, ça ne fait pas partie de la révélation. Alors, donc, de ce pays d'Afrique, hein, ils ont voulu bien faire. Ils ont imprimé sallallahu alayhi wa sallam avec le verset. Et le monde musulman s'est levé contre ce pays, cette imprimerie, et ils ont retiré de la vente des espaces publics, des mosquées, le moindre exemplaire où il y avait ce petit rajout, qui n'avait en aucun cas comme intention de nuire à l'islam ou de fatiguer quoi que ce soit. Mais tout le monde s'est réuni pour condamner cette impression, l'impression de ce Coran. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala protège ce Coran. De même qu'Allah Ta'ala a prédestiné que personne ne touchera Makkah, personne ne portera atteinte aux villes saintes, personne ne pourra détruire la Kaaba, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui-même décide de la fin, de tout ce qu'il y a comme emblématique de l'islam, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne de ce dunya. Mais jamais un pays ou une force militaire ne pourra envahir. Jamais une puissance pourrait envoyer une bombe atomique sur Makkah et détruire. Jamais de la vie. Parce qu'Allah n'a pas prédestiné ça dans l'histoire de le tarder de l'humanité. Ce sont des choses qui sont protégé par Allah. Même si en face il y a des gens qui sont hyper armés, hyper motivés, remplis de haine, mais ces choses-là sont protégées par Allah Azza wa Jalla. Et le Coran est protégé par Allah Azza wa Jalla. Alors que pour, on revient autour du film, que pour les autres livres, le Tawrat et le Injil, il y a un autre verset, hein, le verset ne me revient pas là, qui dit que les révélations ont été confiées à leurs responsables religieux. Il y a un verset, hein, la responsabilité de protéger le livre leur a été confiée. Allah n'a pas pris l'engagement. Ce qui fait que là, ils ont fait ce qu'ils voulaient, malheureusement, des révélations. Allah musta'an. Donc ça, c'est le verset concernant ces personnes. Et puis, il y avait un autre verset hein, qu'on voulait brièvement aborder, qui vient juste après d'ailleurs. Ya ayyuhal ladhina amanu, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Ce verset-là nous montre bien le juste milieu qu'il y a dans la religion. De ce verset, Allah Ta'ala interdit à ceux qui ont la foi, aux musulmans, de rendre haram ce qui est licite à la base. Que personne n'a le droit de décréter haram quelque chose qui est licite. D'accord? Et Allah Ta'ala dit ne transgressez pas, car Allah Ta'ala n'aime pas les transgresseurs. Wa kulu mimma razaqakum Allah halal an tayyiba, et manger de ce qu'Allah vous a accordé comme subsistance, ce qui est bon et licite, et craignez Allah, wa taqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Les mufassirin, Ibn Kathir principalement, rahimahullah, il explique que ce verset a été révélé, selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit que ce verset a été révélé à propos d'un groupe de personnes hein, qui voulaient tellement faire pour la religion, des sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, qui voulaient dépasser les limites de la piété. Et ils se sont dit que, après, une fois donc le professeur sallam, on va lire le hadith depuis le début, alors le professeur sallam avait fait un discours, d'accord? Et à la fin de ce discours, il y a une dizaine de sahaba qui étaient restés dans la masjid et ils se sont dit que ce que le prophète nous enseignait, ben, ils craignaient de ne pas vraiment pouvoir le mettre en pratique ou de ne pas dépasser les limites de la piété s'ils ne font pas quelque chose en plus. Ils voulaient se dépasser mutuellement de la foi. Il dit que les Nasara, ils faisaient des vœux de rendre telle chose haram sur eux, des choses licites. C'est comme si pour faire un mujahadatun nafs, comme on dit. Ils voulaient contrôler leur ego, leur envie, qu'ils font la promesse qu'à partir de maintenant, telle chose, je ne fais plus. Et parmi les sahabas qui étaient présents, il y avait, si je ne me trompe pas, Hazrat Ali radiallahu anhu, et entre autres, il y avait Uthman ibn Maz'un, pas Uthman ibn Affan, hein, un autre sahaba, Uthman ibn Maz'un. Et donc, ils ont décidé, certains se sont dit qu'à partir de maintenant, il y en a qui a dit, فَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ. Il y a une personne qui a dit à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de viande. Je décrète que la viande est haram pour moi parce que je fais cette promesse pour essayer de me rapprocher encore plus d'Allah. Parce qu'il savait que les Nasara, ils faisaient ce genre de vœux. Et il y avait un autre parmi eux, oui, il y avait Uthman ibn Mad'un, il dit que وَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَسَى. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'approche plus de ma femme. J'aurai plus de relations, mais jamais plus avec mon épouse. Et donc, une fois, l'épouse de Uthman ibn Mad'un, elle était en compagnie de Aïcha radiallahu anha, avec d'autres femmes. Et Aïcha radiallahu anha, elle a remarqué que cette femme-là, elle ne faisait plus attention à son apparence physique. Elle dit, « Ma baluki, ya Hawla, elle s'appelait Hawla, pourquoi est-ce que tu es comme ça ?» Hein, l'apparence, hein, l'aspect de ton, l'apparence de ton visage, et tes cheveux ne sont pas peignés, tu te parfumes pas. Elle dit, « Wa kaifa ?» Elle dit, « Quel intérêt pour moi de me soigner, de me parfumer, de me faire belle, alors que mon épouse ne m'approche plus ?» Aïcha, radiallahu anha, elle était étonnée, et plus qu'étonnée. « Faja'alna yadhakna min kalamiha. » Hein, tu as compris, en plus d'être étonnée, les femmes se sont mises à rire. Parce que bon, cette dame-là, Hawla, elle a utilisé une métaphore, c'est de l'arabe, hein, mais une métaphore un petit peu spéciale, d'accord ? On ne va pas traduire. Et Aïcha s'est mise à rire. D'accord ? Et le prophète Sam arrive, il entend les femmes entendre, il dit, pourquoi vous riez ? Il dit que voilà, Hawla nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Mais le prophète Sam n'a pas trouvé ça amusant du tout. Au contraire, le prophète Sam était très en colère. Comment est-ce que quelqu'un peut décréter quelque chose de haram alors qu'Allah Ta'ala a rendu licite ? Allah Ta'ala a donné des facilités à cette umma. Que la pratique de la religion, elle est facile, elle est accessible. Pourquoi se compliquer la vie? Au nom de quoi? À la recherche de la piété, se compliquer la vie? Alors que moi, prophète d'Allah, et le prophète a convoqué immédiatement Uthman ibn Mad'un, et il a dit que, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a expliqué quelle était son intention. Il dit que, « Inni taraktuhu lillah, likay atakhalla lil'ibad. » Il dit, j'ai fait le vœu de ne plus jamais avoir de rapport avec ma femme pour pouvoir faire plus de ibad. Pour pouvoir faire plus d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a raconté pourquoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de retourner immédiatement auprès de sa femme et de recommencer à vivre normalement. Et c'est à propos de ce récit et d'autres récits qui vont dans le même sens que le verset a été révélé que jamais une personne ne doit décréter quelque chose d'interdit alors qu'Allah ta'ala a rendu licite. Et il y a d'autres histoires encore comme il y avait les trois personnes qui étaient venues voir le prophète. Il y en a un qui a dit que moi je ne dors plus le soir, c'est-à-dire je fais tous les soirs qiyam ul-layl. Il y en a un autre qui dit moi je n'approche plus ma femme du tout. Il y en a un autre qui dit que moi je ne mange plus parce que je fais le carême, le jeûne toute ma vie. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très fâché. Il a dit que moi je suis le prophète d'Allah, je suis l'homme le plus pieux, je suis marié et j'ai des rapports avec mes épouses, et il y a des fois où je dors le soir et des fois où je me réveille pour faire le ibad, à l'adoration d'Allah. Il y a des jours où je jeûne, il y a des jours où je ne jeûne pas. Et puis là, il a dit cette formule très connue, que ça c'est ma sunna, فَمَنْ رَغِبَعَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Dire suivre la sunna, c'est dans les prescriptions, mais c'est également d'aller faciliter. C'est une religion qui est faite pour les hommes. C'est pas une religion qui est faite pour les anges. Homme dans le sens de insan, être humain. C'est une religion qui peut être pratiquée à toute époque, quelles que soient les cultures, quels que soient les modes de vie. En aucun cas, une personne n'est en droit de dire que cette religion elle est trop compliquée. Parce que là, wallah, il n'y a rien de contraignant, il n'y a rien d'impossible dans ce dîn. Et ensuite, Allah Ta'ala dit, puis il y a une histoire aussi, une fois, quand il est arrivé à Madina, à Munawwara, il avait fait le mouakhat, le lien de fraternité en Muhajir Ansar. Il y avait un sahaba qui était le frère d'un homme qui s'appelle Abu Darda. Et là, il voit Abu Darda, il voit que l'épouse d'Abu Darda, elle est complètement négligée, à peu près même histoire. Il était voir Abu Darda, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, l'épouse d'Abu Darda, il dit que non, ben mon mari n'a plus aucun rapport avec moi. Depuis qu'il s'est converti à l'islam, il passe ses nuits dans l'adoration d'Allah, il est devenu un homme tellement pieux qu'il ne s'intéresse plus à sa famille. Et là, il a été voir le prophète pour raconter. Le prophète était là où c'est en colère. Il a expliqué qu'il y a un temps pour tout. Dans le hadith, le prophète a dit « Wa inna li nafsika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa. » Ta famille a un droit sur toi. Toi, tu as un droit sur ton propre camp a un droit sur toi. Et Allah, au-dessus de toi, a un droit sur toi. « Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqa. » Il donne à chacun son droit. Il y a le droit d'Allah, le ibadah, il y a le droit de la famille, et il y a le droit de son propre corps. Quelqu'un, vous voyez, le hadith dit, quelqu'un qui donne une sadaqa, qui dépense pour sa famille, pour acheter à manger, etc., c'est déjà une sadaqa. Quand quelqu'un s'occupe de sa femme, s'occupe de ses enfants, c'est déjà une bonne action. Pourquoi? Parce que c'est son devoir. C'est le devoir d'un mari que de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Donc quand quelqu'un il va faire ses cours, etc., il ne faut pas qu'il râle, comme beaucoup y font. Moi aussi je râle parfois. Quand vous sortez de Cora, quoi, vous dites, 180 euros, les calculs, ça, 180 francs. Oui, c'est pas possible. On est parfois un peu fâché, dit c'est pas possible. Mais après, on regarde le chariot, il était nécessaire pour tout ça. Mais on regarde, mais oui, tout est nécessaire. Pour la femme, dit oui, qui ça, il mange. Nous-mêmes, il mange. Mais c'est la famille, il mange. Mais il faut pas râler. Même quand on paye le loyer, il faut pas râler. Parce que si on le fait pour Allah, mais tout dépend du niya. Il dit je fais ça pour Allah. Pourquoi? Parce que je suis un homme, je suis un mari. Quand Allah Ta'ala m'a donné cette personne comme épouse, et m'a donné ses enfants, alhamdoulilah, mon devoir de papa, de mari, c'est de subvenir aux besoins de ces personnes. Ça, c'est mon devoir. Et quand un musulman s'acquitte de son devoir, ben, il fait une bonne action. Il fait une bonne action. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on voulait expliquer hier, mais on n'a pas eu le temps. « Rijal qawwamuna 'ala an-nisa » verset que les femmes n'aiment pas entendre. Que Allah Ta'ala a donné un rang supérieur à l'homme que à la femme. Mais ce n'est pas que c'est une race supérieure, l'autre une race inférieure. Non! Parce que, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwal. Parce que Allah Ta'ala a ordonné à l'homme de dépenser, de subvenir aux besoins. Il y en a qui disent que oui, mais dans l'islam, le mâle hérite deux fois plus que la femelle. D'accord? Le garçon, il gagne plus d'argent que la fille quand il y a l'héritage. Oui! Quand un papa meurt, s'il a 100 000 euros, s'il a 100 000 euros, s'il y a un garçon et deux filles, le garçon gagnera 50 000 et chaque fille 25 000. Il y en a qui disent que mais c'est injuste. Dans notre mentalité à nous, c'est injuste. Pourquoi? Parce que dans les couples modernes, les besoins reposent sur l'homme et la femme. Très souvent, les maris demandent à leur épouse de participer aux besoins de la maison. Elle dit, moi je paye le loyer, toi tu payes l'électricité, l'eau, parce que je travaille, tu travailles. Alors, c'est pas juste que moi, tout mon salaire va dans les dépenses, et toi, ton salaire, ben, c'est des économies, tu vas acheter quoi? Des sacs à main, des chaussures, des trucs et tout et tout. Donc, on partage les dépenses. Non! Non et non! Dans notre din, les dépenses exclusivement pour le mari. Que ce soit la maison, que ce soit les nafaqas, toutes les dépenses en relation avec l'habillement, la nourriture, etc., etc., tout ça, c'est le devoir du mari. Et un homme n'a pas le droit de demander à sa femme de participer dans les dépenses de la maison. Maintenant, vous comprenez la logique. Vous comprenez pourquoi l'islam a donné plus de droits au mari, principalement concernant les questions d'argent. Mais, dans le culte, dans l'adoration, Allah Ta'ala dit « Annahu man amila salihan minkum min zakarin aw unta » que si un homme ou une femme accomplit une bonne action, « wa huwa mu'min » et à la fois bien sûr, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Allah Ta'ala lui garantit une vie paisible. Les mufassins disent que ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى que ce soit un homme ou une femme au même niveau. La rétribution est pareille pour un homme et pour une femme. C'est-à-dire dans les a'mal, dans les actions, Allah ne distingue pas le monsieur de la femme. Et bien au contraire, la femme est beaucoup plus avantagée que l'homme. Parce qu'Allah Ta'ala prend en considération les faiblesses de la femme. Dans le monde du travail, dites-moi dans quelle entreprise, c'est rare où l'homme et la femme, ils ont le même salaire. C'est rare. Et très souvent, les chefs d'entreprise à l'embauche, ils préfèrent embaucher un homme qu'une femme. Parce qu'ils savent que oui, la femme, si elle est enceinte, il faudra lui donner des congés de maternité, elle est moins productive, le rendement est moins bon, etc., etc., etc. D'accord ? Mais Allah Ta'ala, lui, il est clément miséricordieux. Il sait que la femme, elle est plus faible physiquement, et donc Allah Ta'ala ne lui demande pas autant de chance qu'un homme. Pour ça, il dit qu'une femme qui accomplit ses 5 piliers et qui a la satisfaction de son mari, c'est une femme du paradis. Annoncez la bonne nouvelle pour ceux qui sont mariés, annoncez la bonne nouvelle à vos épouses, qu'une femme qui accomplit ses 5 piliers et qui a le contentement de son mari, c'est une femme du paradis. Et donc à la fin du verset, on revient, voilà, ta'tadou. Donc, Allah Ta'ala explique qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas rendre haram ce qu'Allah a décrété halal, licite, et Allah Ta'ala dit également, voilà, ta'tadou, et ne transgressez pas. Ne transgressez pas, nous disent que ne faites pas non plus de gaspillage. Dans le sens, Allah Ta'ala dit que ce qui est licite, mangez. Ne dites pas que c'est interdit. Ce qu'Allah vous a rendu ici, prenez, mais avec modération. Voilà, ta'tadou, et ne faites pas de gaspillage, selon le commentaire d'Ibn Kathir. Et là-dessus, il y a d'autres hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours encouragé le mu'min à faire preuve de modération dans ses dépenses, hein, dans ce qu'il consomme. Et c'est certainement une solution à la crise. Vous voyez, tous les pays sont en feu. La Grèce est déjà carbonisée. L'Espagne, elle brûle réellement et elle brûle financièrement. Et peu à peu, les pays vont suivre, parce que ce sont des grandes puissances, certes, mais qui se sont bâties sur la spéculation. Leur argent n'existe pas. Leur argent n'existe pas. Ce sont des trucs qu'ils disent acheter et revendre avant même d'être propriétaires. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est fictif. Alors que ce sont des transactions qui ne sont pas acceptées par notre dîn, par l'islam. Et donc la solution, depuis le début, le prophète m'a dit que le fait d'être, on va dire économe, d'accord, d'observer le juste milieu, voilà, le juste milieu, sans dire économe, parce qu'on dit économe, ça fait comme si on est radin. Le juste milieu dans les dépenses, hein, ça vous garantit une vie paisible, une vie tranquille. Le prophète nous a montré comment il ne faut pas gaspiller. Aujourd'hui, il y a les mouvements écologie, etc. Ils se réveillent, ils disent qu'il ne faut pas gaspiller, il faut des trucs durables. Même des trucs, ils exagèrent parfois. Hein. Parfois, ils vont un peu trop loin même. Mais bon, si ça les garantit des sièges, tant mieux. Et nous, notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a montré économiser depuis 1005. Depuis une époque où il n'y avait pas de problème d'énergie renouvelable ou autre chose. Le prophète m'a dit que économisez l'eau. Walau kunta ala nahrin jarin. Quand vous faites les ablutions, économisez l'eau, même si vous êtes près d'une rivière qui coule. Ce n'est pas parce que tu vas utiliser plus d'eau que la rivière va s'assécher, va se tarir, non. Mais le professeur Assalam a dit que c'est un principe de ne pas gaspiller. Parce que ces choses-là, ce sont des bienfaits d'Allah. Le fait d'avoir de l'eau courante, enfin de l'eau de rivière, une rivière qui coule et tout, c'est un bienfait d'Allah, il ne faut pas gaspiller. Donc ce message qu'on retient, la religion juste milieu, pas d'extrême, on se prive de choses sans raison, mais pas de trucs superflus non plus. C'est le dîn de wasatiyya, le juste milieu. Qu'Allah nous accepte, nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.